Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient sur France Culture, nous retrouvons la compagnie d'Antoine Fleffel, fidèle de nos rendez-vous dominicaux, philosophe, théologien et fondateur de l'Institut Chrétien d'Orient. Un institut, je le rappelle, qui dispense un enseignement sur les églises et différentes traditions religieuses. Bonjour Antoine.
Bonjour Sébastien.
Si nous sommes ensemble ce matin, c'est pour évoquer un voyage que vous avez fait récemment et qui, je dois dire, m'a fasciné, sinon jalousé. Vous êtes allé au Mont Athos et de cette péninsule de la Grèce, enfin grecque tout en haut à droite dans la continuité de Thessalonique, vous avez continué ensuite jusqu'à Istanbul, Constantinople et je crois même Boursa. Voilà. Alors je sais que vous aimez voyager, vous aimez beaucoup voyager par la lecture, par l'écriture. Nous vous avons reçu pour plusieurs de vos ouvrages. Vous êtes passionné par la géopolitique, par les idées. Vous êtes de confession maronite catholique. Ma première question serait de vous demander comment le maronite que vous êtes a été accueilli au Mont Athos, le symbole suprême de l'orthodoxie.
Il a été accueilli comme un orthodoxe, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que sacramentellement, je suis orthodoxe. J'ai été élevé par mes grands-parents et ma grand-mère orthodoxe, à mon enfance, a tenu à me baptiser en Syrie dans le couvent de Saïdnaya. Et c'est à l'âge de 7 mois que j'ai été baptisé et que j'ai reçu les 3 sacrements d'initiation en tant qu'orthodoxe. Pourtant, je suis maronite parce que mes deux parents sont maronites et mon grand-père est maronite. Donc toute mon enfance, je suis allé avec ma grand-mère à l'église orthodoxe et je communiais. Et avec mon grand-père, j'allais à l'église catholique, maronite. Je ne communiais pas jusqu'à ma première communion où j'ai commencé à communier, mais pourtant je le faisais depuis longtemps. C'est l'histoire d'un chrétien du Liban qui vit dans un contexte pluriel, avec une famille mixte, et qui considère, même s'il a surtout grandi dans l'église maronite, et puis fait carrière comme théologien et philosophe, mais qui considère aussi que l'orthodoxie fait partie de son héritage. C'est à ce titre que je me suis rendu au Mont Athos, mais aussi comme chercheur et professeur, qui va là-bas à la rencontre des gens. Et tout à l'heure, vous parliez des livres et du voyage qu'on fait à travers les livres. J'ai été toujours étonné par des cartes qui disaient, dans une période de sa vie où il a arrêté de lire, qu'il a beaucoup plus appris en voyageant qu'en lisant. Au bout presque de 30 ans de vie comme universitaire, je puis dire que les 24 heures, par exemple, que j'ai passées au Mont Athos m'ont beaucoup plus appris sur l'orthodoxie que ce que j'ai appris à travers plein de lectures et peut-être plein de connaissances, mais juste dans le contexte du Liban et de la Syrie.
Alors c'est une première, je crois, pour vous. Vous n'étiez jamais allé au Mont Athos.
Tout à fait.
Alors en quelques mots, comment d'abord on se prépare pour aller au Mont Athos? C'est pas quelque chose qu'on décide du jour au lendemain. Il faut être accueilli, je crois, dans un monastère avec une lettre.
Tout à fait. Il faut prendre contact avec les monastères qui nous intéressent. Il existe 20 monastères dans le Mont Athos. Et donc toute cette république monastique est territoriale, territorialement partagé entre ces monastères qui ont leur terre, qui labourent ces territoires, où il y a aussi d'autres types d'habitations monastiques qui dépendent des monastères principaux. Il faut les contacter, obtenir une autorisation, et puis aller se présenter à Ouronapoli, qui est ce village d'où on peut prendre le bateau et embarquer jusqu'au Mont Athos. Il faut un laissez-passer, une sorte de visa pour aller là-bas, en plus du papier qui est délivré par les monastères.
Une fois qu'on accède donc dans cette enclave du Mont Athos, on circule comment?
On a le choix entre circuler à pied Et parfois, les monastères sont lointains, mais si on a envie de faire plusieurs heures de marche, ça pourrait être très agréable parce que les paysages sont magiques. Le Mont Athos est vraiment le jardin de la Mère de Dieu, comme on peut s'imaginer d'un point de vue poétique et esthétique. Ou sinon, on peut prendre des taxis ou des bus. Il y a des bus qui vous emmènent du port où vous débarquez jusqu'à la capitale, Kiriès. Il y en a pour 20 minutes, 25 minutes. Et ensuite à Kiriès, soit vous prenez un bus pour le monastère où vous voulez aller, soit vous prenez un taxi, soit vous faites à pied. Mais des bus, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un ou deux par jour. Et le taxi, c'est une certaine somme. Mais ça en vaut la peine.
Est-ce que vous avez pu rencontrer Antoine Fleffel lors de votre séjour assez bref mais intense sur l'Athos, des personnalités intéressantes voire exceptionnelles?
Toute personnalité est sans doute exceptionnelle pour déjà faire ce choix et aller vivre là-bas. Mais grâce à un partenaire de l'Institut chrétien d'Orient, Serhii Chumilo, qui est le directeur de l'Institut des études atonites à Kiev, et avec qui nous avons des projets communs sur le Mont Athos, sur l'œcuménisme. Ça peut être un peu surprenant de parler du Mont Athos et d'œcuménisme, parce qu'il y a des tendances dures face à l'œcuménisme là-bas. Grâce à lui, j'ai pu être en contact dans les deux monastères où j'ai été avec des interlocuteurs francophones avec qui j'ai pu échanger sur le Mont Athos, sur l'histoire de ces monastères, mais aussi sur l'orthodoxie. À vrai dire, j'étais allé là-bas pour la rencontre et j'ai été bien servi. J'ai été là-bas pour voir et j'en ai eu plein les yeux. Mais je suis allé aussi là-bas pour échanger sur les icasmes avec les moines. Cet icasme, la prière du cœur, qui est au cœur de la mystique orthodoxe, mais je dirais qui est aussi au cœur de la mystique orientale, parce qu'en tant que maronite, j'ai appris à prier la prière de Jésus dans mon église maronite. Pour vous dire que les frontières entre les églises et entre les spiritualités sont souvent moins importantes et moins réelles que ce qu'on puisse se l'imaginer. Je n'ai peut-être pas eu suffisamment le temps d'échanger sur la question, mais ce que j'ai appris surtout, c'est le positionnement global qui existe dans le Mont Athos au niveau de la modernité et du monde actuel. Il y a une certaine résistance dure vis-à-vis d'une évolution que le monde prend, notamment en Occident. Et parfois, en écoutant certains discours politiques qui viennent de pays de l'Est, on peut croire que ces discours relèvent d'une propagande qu'on veut utiliser pour attaquer l'Occident. Mais en réalité, il y a des convictions profondes qui sont partagées par beaucoup d'orthodoxes de facture grecque, de facture russe, un courant qu'il ne faut pas négliger, un courant qui ne regarde pas forcément avec beaucoup d'enthousiasme les écrits d'Olivier Clément ou de l'évêque grec orthodoxe Georges Chodr, qui est un évêque qui m'a beaucoup marqué dans mon parcours théologique. Parler de ces courants ne soulevait pas un enthousiasme particulier. L'orthodoxie est vraiment très diverse. Et on peut difficilement comprendre la profondeur de l'orthodoxie si l'on ne part pas au Mont Athos, qui est quand même son cœur battant d'un point de vue mystique. Et encore un dernier élément que je voudrais partager avec vous, qui est très important. Lorsque je lisais les écrits de Georges Chodr, il disait « L'orthodoxie antiochienne est accueillante, est ouverte, est vaste, disait-il. Rahiba, wasi'a, en arabe. » Je comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire. Parce que pour moi, le Mont Athos, c'était le moine Silouane, à travers les écrits de qui j'ai connu ce mont et la prière du cœur. La Russie, j'avais en tête Paul Evdokimov, les belles icônes, la belle histoire de l'orthodoxie russe. Mais quand on part au Mont Athos, on comprend que l'orthodoxie comprend beaucoup de nuances. Et il est très important de le savoir, parce que l'orthodoxie est aussi un élément majeur aujourd'hui de l'histoire des religions, du poids religieux dans le monde, du géopolitique. On voit bien la guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'intervention de la Russie en Syrie. Tout cela a engagé un certain discours sur l'orthodoxie. Et il faut être très prudent quand on aborde l'orthodoxie, tel qu'il faut l'être avec les chrétiens d'Orient d'une manière globale, avec l'islam ou avec le judaïsme, aussi en est-il avec l'orthodoxie, qui contient plein de nuances, plein de courants, plein de positionnements.
Quels sont les monastères où vous êtes resté? Vous avez évoqué deux monastères.
Allé premièrement au Pontocrator, et deuxièmement, je suis allé à Simon Petra, qui est considéré comme l'un des plus beaux monastères. Et dans ces monastères, il est particulièrement touchant de voir ces moines. Il y en a beaucoup, des moines au Mont Athos. Ils sont 2500 sur le Mont Athos. Et c'est vrai que lorsque l'on va en France ou en Europe dans des monastères de type contemplatif, la moyenne d'âge est assez élevée, même s'il y a un certain renouveau actuel. Dans le Mont Athos, il y a toutes les tranches d'âge, il y a toutes les nationalités, il y a des Français, il y a des Libanais. J'ai rencontré quelqu'un qui est de ma ville au Liban, qui est le frère Isaïe, qui est dans le monastère de Simon Petra. Les monastères sont vivants. Les pèlerins, ils sont par vagues, ils arrivent tous les jours par les bateaux, et chacun portant avec lui ses problèmes, ses espérances. Les gens viennent ici avec une attente, il y a une réelle quête. Parce que aller au Mont Athos, ce n'est pas prendre un avion et atterrir. Aller au Mont Athos, c'est aussi une épreuve physique. Il faut prendre l'avion, il faut prendre le taxi, il faut prendre le bus, il faut prendre le bateau, il faut marcher, il faut parfois dormir dans des conditions auxquelles nous ne sommes pas habitués dans notre monde moderne, à plusieurs, dans des cellules où il y a du bruit. Il faut se lever à 5 heures du matin pour assister à la prière au Laude qui dure 5 heures. Et qui sont d'une beauté inouïe, avec ce soleil qui se lève. Et parce que l'église, quand on commence à prier, il n'y a que des bougies et bon, deux lampes dans les deux cœurs qui sont en train de réciter par alternance les prières différentes. Et lorsque le soleil se lève et les rayons commencent à pénétrer l'église à travers les petites ouvertures reflétées sur les icônes, sur l'or qu'il y a, sur toutes les couleurs mêlées à l'odeur de l'encens. Lorsqu'on dit que la liturgie byzantine est une parcelle d'éternité et préfigure le royaume, par la beauté qu'il y a, c'est effectivement un rayon de divin qui est là. Mais certes, ce rayon divin ne peut accéder au cœur que dans la mesure où le cœur lui est ouvert. Et cette beauté ne peut être perceptible que pour des yeux qui sont complètement disposés à l'accueillir. Le Mont Athos est une perle, on peut tout y trouver, on peut y trouver des positionnements durs, on peut trouver de l'esthétique, de la prière, mais disons que ce chemin vers le Mont Athos, ce pèlerinage, c'est dans la mesure où l'on est prêt à accueillir tout ce qui nous est présenté, quelle que soit sa nature, qu'on peut percevoir la beauté de cet endroit, où quand même des gens viennent et donnent toute leur vie, loin du monde, même sans les femmes, puisque les femmes ne sont pas autorisées, sur le Mont Athos, donnent toute leur vie pour prier et travailler. On peut peut-être se dire, mais pourquoi ont-ils des positionnements tellement durs? Ça peut déranger. Mais d'un autre côté, ça reste quand même des gens qui donnent beaucoup d'eux-mêmes et qui participent à un renouveau mystique dans le monde orthodoxe. N'oublions pas que le Mont Athos avait atteint, dans les années 60, un état, délabrement est un mot fort, mais il n'y avait plus que 500 moines.
Oui, on était au bord, finalement, de la fin d'une très longue
tout
histoire.
Tout à fait, des ruines. Les moines les plus âgés disaient, mais on a besoin juste de quelques moines pour qu'ils puissent nous enterrer.
Il faut rappeler la description extraordinaire que fait Jacques Lacarrière dans l'été grec du Mont Athos.
Oui, tout à fait.
Dans ces années 50 à 60, à peu près.
Tout à fait, tout à fait. Et depuis les années 60, il y a eu tout ce renouveau. Et des jeunes à n'en plus finir qui venaient ici. Et cela est remarquable. Le jeune Libanais que j'ai rencontré là-bas, qui est de Achrafieh, la ville où j'ai vécu au Liban, il y a 31 ans, il est là depuis 7 ans. Il a été séduit par la spiritualité et je crois qu'il est bien parti pour passer sa vie dans ce même endroit, en priant, en travaillant.
Antoine Feffen, est-ce que vous aviez eu ce genre d'expérience dans d'autres endroits, dans d'autres monastères que le Mont Athos? Ou est-ce que pour vous, il y a vraiment une spécificité particulière?
Oui, bien sûr, il y a une spécificité. Certes, une fois qu'on accède à la lumière divine, la lumière se donne partout. Et au bout d'un moment, les différents chemins mystiques mènent à la même source. Néanmoins, il y a un il y a un caractère propre au mont Athos. Les moines du mont Athos, mais je crois que même les pierres du mont Athos, savent qu'ils sont au centre de l'orthodoxie, qu'ils ont un héritage très riche, qu'ils ont encore quelque chose à donner au monde. Saint Silouane, ce moine du XXe siècle, a quand même apporté beaucoup sur le plan de la spiritualité. Il a touché le maronite que je suis et il m'a mené vers la prière du cœur, entre autres. Mais il y a beaucoup de caractéristiques propres à cet endroit où l'on trouve le plus grand nombre de manuscrits grecs du monde, cet endroit qui n'a jamais été détruit, cet endroit qui a une histoire très particulière avec les Ottomans. Plusieurs moines me disaient, nous sommes les derniers Ottomans. Ils me montraient les firmans des sultans.
Ils ont toujours été protégés par la porte ottomane.
Tout à fait, d'une manière très particulière, parce que le sultan voulait faire du mont Athos le dernier reste de Byzance, de Constantinople. Et il faut souligner que lors de la révolte grecque, révolution grecque en 1830, les moines d'Athos se sont rangés du côté de Constantinople, donc du côté des Ottomans. Il y a une histoire particulière. Et ce qui pourrait aussi dérouter un catholique habitué au monastère de contemplatif traditionnel, les chartreux ou autres. Les chartreux pourront vous dire, oui, le dimanche, le père abbé nous lit le journal, on a une idée de ce qui se passe dans le monde et on prie. On prie pour tous, sans prendre aucune position, sinon en souffrant. Non, dans le mont Athos, il y a un positionnement clair vis-à-vis du monde. Et non seulement ce positionnement est clair, mais dès que vous êtes accueilli, les premières questions qu'on vous pose, du moins les premières questions qu'on m'a posées, bien sûr mon expérience est située, c'est quel est mon positionnement par rapport au courant moderne, au wokisme ou à d'autres revendications identitaires. Voilà, vous pouvez remplir la case, elle est large. Ces moines ont une vie de prière, une vie contemplative, une vie de réclusion, une vie généreuse. On peut voir la joie du Christ sur leur visage.
Mais un conservatoire, en fait, c'est ça que vous nous décrivez. Ouais, à la fois un conservateur...
Mais un positionnement vis-à-vis du monde.
Et un positionnement politique, voilà.
Ah, oui.
Mais qu'on n'attend pas, qui est surprenant par rapport à...
Tout à fait. Et j'ai même rencontré des novices qui sont là. Et bon, les novices ont beaucoup à apprendre, donc on ne peut pas prendre leurs paroles comme référence. Néanmoins, le mont Athos est pour eux un refuge face à un monde qu'ils ne reconnaissent plus.
Et qu'ils ne comprennent plus, peut-être.
Plus du tout. Et ces novices, je ne vous parle pas de novices roumains, grecs ou géorgiens. Je vous parle de gens qui viennent de la Grande-Bretagne, qui viennent du Canada, des États-Unis, et qui disent, le monde moderne, on n'en veut plus, on ne se reconnaît plus dans cette société, dans le nouveau modèle familial, dans le nouveau modèle anthropologique, et cela crée un rejet. Oui, le mont Athos a sa particularité et il est traversé aussi par plusieurs courants. Il ne faut pas croire que tous les monastères croient de la même manière. Il y a des monastères ayant des attitudes dures vis-à-vis de l'œcuménisme. D'autres monastères sont beaucoup plus ouverts à l'œcuménisme. Il y a des monastères qui ont des attitudes dures vis-à-vis du catholicisme, de la papauté ou même vis-à-vis du patriarche œcuménique.
Qui est à Constantinople, à Istanbul.
Tout à fait, voisin, et d'ailleurs qui rend des visites régulières au mont Athos. C'est tout un monde. C'est un monde qui résume en lui plus de 10 siècles d'histoire. Le mont Athos, c'est le 10e siècle, donc 11 siècles d'histoire, mais qui concentre en lui aussi des espérances, des déceptions, des attentes, des visions qui se trouvent partout dans le monde orthodoxe, et même au-delà du monde orthodoxe.
Antoine Fleffel, pour continuer ce voyage, vous êtes allé après, à la manière du pèlerin que vous êtes, vous mentionniez l'Empire ottoman, donc il n'était pas... il était certain que vous alliez du côté du Bosphore, donc vous êtes allé à Istanbul. Je crois que vous avez fait des rencontres assez étonnantes aussi.
Oui, tout à fait. Le chemin a continué avec une suite géographique inouïe. Parce qu'entre la Grèce et la Turquie, on sent le même air, on voit la même végétation, il y a les mêmes effluves. En plus, c'est la période de printemps, j'ai été bien servi par les gardénias, par les fleurs. Je suis allé faire 4 rencontres en Turquie, 3 chez les soufis et la dernière chez les catholiques. Je suis allé à Bursa, qui était la capitale de l'Empire seldjoukite. Une perle aussi, d'une beauté inouïe, qui n'est pas sans me rappeler mon pays natal, le Liban, avec les montagnes qui entourent cette ville. Bursa est une ville où le soufisme s'est développé, où il a une histoire. Je suis allé dans une tariqa, donc dans une derga, une sorte de monastère soufi, Qadiri. Ils savent qui je suis, ils ont été très heureux de m'accueillir. C'était la soirée, c'était la célébration de Ramadan, Ramazan, comme on dit en turc. Donc j'ai été accueilli à cette fête qu'ils ont fait, qu'ils ont célébrée, où ils mangent une soupe au kefté, les boulettes de viande à l'oriental, pour commémorer un miracle qui aurait eu lieu il y a plusieurs siècles, où les gens étaient tellement pauvres et ils n'avaient plus d'argent, mais il fallait manger cette soupe. Et on a mis des pierres dans la soupe, et les pierres se sont transformées par miracle en kefté. Et tous les ans, on commémore cela. Et de Bursa, je suis allé à Istanbul pour rencontrer une personne que j'ai connue grâce à vous, qui est Kanan Gürsoy, ancien ambassadeur turc auprès du Saint-Siège, philosophe, professeur de philosophie à l'université, à la tête d'un centre aujourd'hui à Istanbul, un centre qui promeut la rencontre et le dialogue des cultures et des religions. D'ailleurs, à Bursa, c'est aussi la même perspective qu'ils ont. Et c'est ce qui peut être un peu surprenant pour des non-initiés. Dans le mot Athos, on trouve certaines positions dures, je le dis sans jugement, mais en constatant vis-à-vis des autres chrétiens, alors que chez les soufis, on retrouve un discours qui dit « On est tous les mêmes, Dieu parle avec nous tous, chacun à sa manière, louons-le tous ensemble. » C'est le discours que j'ai écouté à Bursa et à Istanbul. Ensuite, j'ai été dans une autre derga, qui est une fondation de Rumi et Chafik Jan, qui est une belle figure, qui a à sa tête une personne qui s'appelle Nur Artiran, qu'on appelle Cheikh Nur, qui promeuve la mystique de Rumi et qui cherche à être en contact avec le plus grand nombre possible de personnes croyantes en Dieu, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture, afin de créer une culture de paix et de rencontre.
Antoine Fleifel, merci beaucoup pour cette évocation. Nous vous recevrons à nouveau pour un prochain voyage dans Chrétien d'Orient, dès que vous reprenez votre bâton de pèlerin. Je rappelle l'Institut Chrétien d'Orient, fondé avec le soutien de l'œuvre d'Orient. Vous pouvez trouver sur Internet, nous mettrons les références sur la page de Chrétien d'Orient sur le site de France Culture. Je remercie Louise de Villard pour la réalisation de cette émission, Marie Dalquier et Antoine Viossa pour la technique. Nous retrouvons maintenant Soleil, le rendez-vous protestant. Bon dimanche.